d'ouvrir ce sujet de l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que nous devons choisir, que nous-mêmes nous devons choisir. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne, c'est quelque chose que nous choisissons, nous nous rendons humbles, nous choisissons de devenir humbles. C'est une décision. Matthieu chapitre 18, verset 1er. Je pense que c'est une bonne chose que nous prenions la Sainte Cène après ce que l'on va partager. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Retenez bien l'expression « quiconque se rendra humble ». Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous demande de choisir également de nous revêtir d'humilité. Colossiens chapitre 3, verset 12. Donc, toute une exhortation à nous demander à nous attacher à Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, les élus ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Ce n'est pas les chrétiens, pentecôtistes, évangéliques, catholiques, protestants qui sont inscrits dans un registre d'église. Les élus, ce sont tous les gens. Quand ils ont entendu la prédication de la croix, ils ont répondu à l'appel. Il y a beaucoup d'appelés. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Vous connaissez la suite qui nous indique l'état d'esprit dans lequel Dieu veut que nous soyons. Revêtez-vous d'humilité. Regardez encore dans Romains, un troisième texte qui nous indique exactement la même chose. Romains, chapitre 12, verset 16, c'est un état d'esprit. Voyez, Romains, chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Nous vivons dans un monde difficile, très difficile. Nous vivons dans un monde dur. Si vous avez entendu, lors des dernières élections, on parle des jeunes politiciens, comme des lions. Les jeunes lions, ce sont eux qui gouverneront la France dans quelques années. On veut des lions, des battants, on veut des guerriers. Et ça, c'est presque dans tous les domaines. Il y a une rivalité, vous avez vu un peu dans le monde du sport, où on en arrive dans le monde du sport pour devenir le premier, le plus grand, la plus grande équipe dans le domaine du sport, dans le domaine militaire, dans la médecine. Quel sera le premier qui aura le prix Nobel de la paix? Là aussi, il y a une concurrence pas possible dans tous les domaines. Et s'il faut marcher sur quelqu'un pour arriver à un mot, eh bien, on va pas se gêner. Ça, c'est le monde. Mais certains livres chrétiens aujourd'hui, vous savez que je vous demande de vous mettre en garde par rapport à ce que vous lisez. Écoutez bien. Certains livres chrétiens nous motivent pour devenir des battants, des guerriers. Il y a eu un séminaire il n'y a pas longtemps pour les femmes. Il faut faire des guerrières. Alors, je comprends dans quel état d'esprit ça doit être fait. Je comprends. Mais il faut prospérer à tout prix. L'Église doit prospérer, et vous savez que n'importe quel thème, vous pouvez le justifier avec des versets bibliques pris au détriment de n'importe quel contexte. Ça, c'est clair. Il faut de la réussite pour la gloire de Dieu. C'est une mentalité. Il faut gagner. Il faut épanouir les ministères. Il faut épanouir les vocations. Nous allons faire une génération de battants. Et si vous avez assisté à des dernières rencontres, de séminaire. Les jeunes, faites attention à ces choses. Vous entendez cela avec des rêves spirituels. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le monde qui est en train de rentrer dans l'Église. Et croyez-moi, Vous ne le réalisez peut-être pas. Moi, j'aurais entendu ça il y a 30 ans, j'aurais dit amen, je me serais levé, j'aurais peut-être même levé les bras. Alléluia, tous ces pasteurs dynamiques qui veulent faire de nous des battants. Cette façon de penser ne doit pas rentrer dans l'Église. Écoutez-moi, les frères et sœurs. Cette pensée-là n'est pas bonne. La Bible dit que la sagesse, elle est avec les humbles, les humbles. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 15, 23, l'humilité précède la gloire. Et nous ne devons jamais oublier que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Je suis en train de réfléchir, nous allons recommencer l'année scolaire. Ma responsabilité, c'est comme on l'a chanté, c'est d'apporter la pensée de Dieu. Plusieurs sujets me préoccupent dans le sens où je prie. Je sais que je dois à la rentrée vous apporter quelques exhortations sur le véritable repos. Tant de chrétiens sont épuisés, fatigués et ne connaissent pas le repos. Alors que Jésus a promis de nous donner du repos. Ça sera le sujet de plusieurs méditations. Je sais que c'est important pour plusieurs. Vous aimez Dieu, mais vous n'arrivez pas à vous décharger de tout ce qui se passe. Et il y a des enseignements qui vous aideront. Mais franchement, cette semaine, je pensais à des situations qui m'ont préoccupé dans l'Église, quelques situations qui réclament, je prie pour ça, bien entendu. Mais, en priant pour ce culte, j'ai demandé à Dieu sa pensée. Et je vous assure, j'ai vraiment compris une chose. Que si Jésus a pu faire son œuvre par l'humilité, l'œuvre de Dieu ne pourra se faire qu'avec des gens humbles, non pas des battants qui veulent mettre plein la vie aux autres. Ça, dans le royaume de Dieu, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quelqu'un me disait dernièrement, Monsieur Gaud, dans l'église, vous devriez peut-être établir les anciens, les diacres, les diaconesses, les ministères, tout ça, ça serait bien. Moi, je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Je suis sûr d'une chose, c'est que par contre, le service est important, mais pas le titre. C'est le service qui montre le ministère que la personne a reçu, et pas l'inverse. Vous suivez ? On peut prendre quelques exemples, on pourrait en prendre une dizaine d'exemples. Alors, je n'ai que la marque du choix, j'ai pensé à Ruth. Si vous avez lu le livre de Ruth, vous voyez cette femme, Moabite, une descendante de Lot, que Lot a eue avec une de ses filles. Quand vous voyez la malédiction qui va tomber sur cette génération. Mais voyez, quelle que soit la malédiction, on peut en sortir et choisir, par l'humilité, de voir Dieu changer les circonstances. Et quand vous lisez l'histoire de Ruth, bien sûr, claque, de suite, vous mettez les qualités sur le caractère de cette jeune femme. Vous êtes obligé de voir que c'est une fille travailleuse. Dès que vous lisez le livre de Ruth, vous pouvez dire, mais cette femme, eh bien, elle n'était pas feignante, cette femme. C'était vraiment, on peut faire une exhortation sur cet esprit, sur le zèle, le travail de cette femme. On peut parler sur l'amour qu'elle avait pour sa belle-mère et comment elle a honoré sa belle-mère. On va voir que l'humilité, si j'ai le temps, ne peut pas faire autrement que d'honorer sa famille. Quelqu'un qui est humble est, entre guillemets, obligé d'honorer sa famille. Ça, c'est autre chose. Cette femme, elle était humble. Et comme elle est humble, Dieu va diriger les circonstances pour en faire une ascendante du Christ. Comment Dieu a béni cette femme? Alors, je voudrais que vous compreniez que ça nous touche de près. Les femmes, les hommes qui ont été bénis à cause du choix qu'ils ont fait de se revêtir d'humilité. Regardez Anne. Cette semaine, avec mon épouse, on a parlé de Anne, hein, de cette femme qui a souffert pendant des années, qui a beaucoup pleuré. Pourquoi ? Parce qu'elle voulait un fils. Est-ce que c'est normal qu'une femme veuille un enfant ? C'est normal. Et cette femme, elle pleurait, d'autant plus qu'elle était persécutée, maltraitée. Vous connaissez cette histoire, quand vous voyez tous les mots, tous les verbes qui sont utilisés dans le premier chapitre de Samuel, c'est une affaire difficile. Cette femme, elle souffrait, critiquée. T'es stérile. Vous savez, c'est facile de critiquer quelqu'un qui n'est pas exaucé. C'est facile. Ça, c'est sûr que ce n'est pas l'humilité. Et j'en profite pour le dire à chacun d'entre nous, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas exaucé qu'il ne sera pas béni. Ça peut concourir, ça peut prévaloir de la volonté de Dieu. cette femme pendant des années. Pourtant, elle va au temple. Elle va au temple, pleine d'amertume. Elle est aigrie. Vous lire le texte. Elle devient anorexique même. Elle ne mange pas. Elle est dans une souffrance pas possible. Et pourtant, avec l'amertume, elle va s'humilier devant Dieu. Il y a des gens qui disent sa mère, et ça me doit tout bavarder, j'aime plus personne et je ne veux plus vous voir. Elle, dans l'amertume, elle répand son âme devant Dieu. Et parce qu'elle va s'humilier devant Dieu, Dieu va lui montrer. Écoutez bien, c'est lié à l'humilité. Dieu va lui montrer que ce que lui veut d'abord, c'est pas lui donner un fils à elle. Ce que Dieu veut, c'est donner un prophète à Israël. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'humilité va changer notre façon de prier. L'humilité va nous amener non pas à demander pour nous, donne-moi à moi un fils, bénis-moi, ce qui est tout à fait correct. Ce n'est pas un péché de demander certaines choses que d'autant plus Dieu veut nous donner. Mais l'humilité de cette femme, l'amertume dans laquelle elle se trouve, ne l'amène pas à l'exaspération, elle l'amène à genoux dans la présence de Dieu. Et elle va tout d'un coup prier selon la volonté de Dieu. L'humilité ne vous éloignera jamais de Dieu. L'humilité vous permettra de prier comme Dieu le veut. Et tout d'un coup, vous avez vu cette femme qui, à la place de demander pour elle, elle va comprendre qu'elle va demander pour Dieu. Et peut-être que plusieurs pourraient tirer des leçons ce matin. Déjà, le reste est le plus important. Là, je vous donne nous deux exemples pour vous montrer que l'humilité a béni des hommes, et surtout des femmes dans l'Ancien Testament. Nous sommes bouleversés par le nombre de femmes qui ont amené la bénédiction sur les autres. Car l'humilité, la seul objectif, c'est de bénir les autres. Quelqu'un qui est humble, il est préoccupé par ça, il veut bénir les autres, leur faire du bien. Péninas, la deuxième femme de son mari, lui faisait du mal. Et posons-nous la question. Posons-nous vraiment la question. Est-ce que nous faisons du bien aux gens? Ou est-ce que nous leur faisons du mal? Les amis de Job, c'était des pros de la doctrine. Et ils ont fait que du mal. Et nous devrions, j'en suis convaincu, nous appliquer à vivre ce que l'on a lu dans les trois textes. Je vais me revêtir d'humilité. Dieu vous l'apprendra. Si vous lisez sa parole, ce n'est pas possible. Pas possible. Ce n'est pas possible. En chantant certains cantiques, vous êtes bouleversés. En lisant la parole, Dieu vous aidera, nous aidera à nous revêtir d'humilité. Vous avez vu cette femme? Elle comprend que notre prière peut changer. Peut-être que c'est ce que quelqu'un doit faire ce matin. À la place du Seigneur, donne-moi d'abord un bon travail. Peut-être dit au Seigneur, Seigneur, mais ma vie, je vais te la consacrer. N'attendez pas d'avoir un fils pour le consacrer à Dieu. Peut-être déjà commencer à consacrer la vôtre. Parce que j'en suis convaincu que Dieu peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons pas. Vous le croyez toujours ça? Même si c'est la crise? Même si les caisses se vident? Est-ce que Dieu peut bénir son peuple? Vous croyez que Dieu, il est inquiété par ce tumulte parmi les nations, comme dit le psaume 2? Vous connaissez comment se conclut le psaume 2? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Dieu n'est pas un moqueur. C'est un anthropomorphisme. C'est une façon de nous indiquer que Dieu n'est jamais touché par quoi que ce soit. Il règne et il domine sur tout. Dieu n'est pas inquiété par ce qui se passe au Moyen-Orient. Dieu est inquiété par une seule chose, c'est le salut de tous les hommes. Les pauvres et les riches, les noirs et les blancs. Voilà, Dieu aime tous les hommes et il veut les sauver. Cette femme nous montre que si nous nous revêtons d'humilité à la place de râler, de rester amer, d'être hypocrite, d'être insouffrante, elle souffrait. Souffrir, on peut souffrir à cause des autres. Est-ce que vous le savez, c'est qu'on peut souffrir à cause des autres? J'espère que je sais très bien que tout le monde le sait. Même déjà un enfant de 10 ans sait qu'il peut souffrir à cause de quelqu'un. Alors, faisons attention. C'est sérieux. On a demandé, Brice a dit, voilà, on va être à l'écoute de Dieu ce matin. On n'est pas là pour entendre une prédication qui ferait un peu de bien. Non, on veut la pensée de Dieu. On est dans une société dure, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde difficile, ce qui fait comme c'est dur, on a tous été trompés, on a tous été déçus par quelqu'un. Qui n'a jamais été déçu par quelqu'un? On a tous été blessés, on a tous été meurtris, on a tous été contrariés, mais nous avons l'enseignement et l'exemple de Jésus. Le bon samaritain nous donne beaucoup d'enseignements, de ramasser le blessé sur le chemin. Il y a quelques jours, j'ai eu une mauvaise pensée. Je vous le dis, vous le connaissez. Je vous le dis parce que c'est peut-être bien. Comment vous le dire? Parce qu'il faut comprendre les choses. On a tous des moments où on remet en question certaines choses. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas bien, il faut que je le dise. Nous nous occupons des filles de la rue. Vous attendez? Et je ne sais pas, il y a une semaine ou deux, j'ai pensé, j'ai dit, mais c'est pas bien, mais c'est pas comme ça que je l'ai pensé. Mais bien, à quoi ça sert? Est-ce qu'il y aura du résultat? Vous me suivez? Et hier, je ne dis pas au contraire, je veux dire, on va continuer. Mais Dieu m'a montré hier, en préparant cette étude, qu'on n'a pas regardé si elles se convertiront ou si elles ne se convertiront pas. Que ce calcul-là est stupide. C'est ce que Dieu m'a montré. Ce qu'on peut faire, on le fait. Parce qu'on aime les gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est vrai que j'ai peut-être été influencé par quelqu'un qui me dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ces filles, etc., 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 etc. Et je voyais que on est perturbé parfois par le propos de quelqu'un. Mais en préparant cette étude sur l'humilité, je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut? Si Dieu nous permet de soigner des blessés, eh bien, soignons-les. Si Dieu nous envoie telle catégorie de gens, que ce soit des riches ou des pauvres, parce que je peux vous dire qu'il y a des riches qui sont plus mal en point que des clochards. Croyez-moi. Croyez-moi. Et à cause de cela, nous devons nous veiller. Et c'est vrai que j'aurais pu construire toute ma prédication sur des exemples d'hommes et de femmes qui nous permettent de rebondir et réaliser qu'en nous revêtant d'humilité, nous allons être amenés à prier comme Dieu veut que nous prions, nous allons être amenés à travailler comme Ruth et voir que Dieu change les circonstances. Croyez-moi, si Dieu veut vous amener dans telle chambre, il vous y amènera. Parce que vous croyez que c'est trouvé par hasard dans le champ de bois comme ça? Parce que Dieu règne sur les gens qui sont humbles. On a chanté. Dieu est droit pour ceux qui l'écoutent. C'est à peu près ça. Et quand je pensais à ce travail qu'il faut que nous fassions pour les uns, pour les autres, je repensais à ce verset, voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain. Et que Dieu nous accorde de pouvoir aider les gens. Ils se convertiront, c'est très bien. Il ne se convertira pas, ça ne changera pas notre cœur. On continuera à faire ce qu'on peut faire. Tout simplement, par amour inconditionnel. Je vous le dis parce qu'il faut que vous sachiez que je ne suis pas meilleur que vous et que je veux moi aussi vivre ces choses dans un bon état d'esprit. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et c'est ce verset qui m'a servi de point d'appui pour ce moment qu'on passe ensemble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. On voit bien qu'on a une part à faire. Certains attendent, Seigneur, rends-moi humble. Certains attendent que Dieu les rende humbles. Ça ne marche pas comme ça. Vous comprenez bien, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est comme les gens qui disent, Seigneur, augmente ma foi. Et qui n'obéissent pas à Dieu et qui ne lisent pas la Bible. C'est un non-sens, c'est comme un gars qui voudrait faire du bodybuilding et qui ne ferait jamais de sport et qui prierait, Seigneur, mais rends-moi costaud. On dirait, mais tu as un problème. Et il y a des chrétiens qui s'agissent de la même manière. Ils veulent être humbles en demandant à Dieu de devenir humble. Nous ne deviendrons pas humbles en demandant à Dieu de devenir humble. Nous nous deviendrons humbles en nous laissant attirer par ce qui est humble. Laissons-nous attirer. Alors on peut jouer les durs. Et c'est ça le piège, à cause de cette dureté, à cause des temps difficiles. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'endurcissent. C'est pas nouveau. Jésus a prophétisé qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Je vous apprends rien. Donc on peut jouer les durs, les indifférents, les insensibles, tout en continuant à prier. Comment nous laisser attirer par ce qui est humble? Parce qu'on n'est pas là pour envoyer des versets à tout vent. Et voilà, prenez les versets, c'est... Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Aider les gens à développer une véritable piété, c'est pas, excusez-moi l'expression, mais balancer des versets dans un auditoire. Comment allons-nous nous laisser attirer par ce qui humble? Comment parler de l'humilité sans parler de Jésus, qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il aurait pu dire « Je suis le Seigneur de l'univers incarné, tenez-vous à carreau ». Est-ce qu'il aurait pu le dire? Ben oui, il aurait pu le dire. Je ne blâme pas. Il aurait pu dire « Mais réfléchissez, je suis le Dieu incarné. Je suis doux et humble de cœur. » Qu'est-ce que Jésus n'a pas accepté? Dans une demi-heure à peu près, même pas, nous allons prendre le pain et le vin. Je voudrais lire avec vous un texte dans les Philippiens, s'il vous plaît. Vous connaissez ce texte, Philippiens, chapitre 2. Vous savez, dans ce texte, où il est demandé justement, on connaît bien le verset 3. On l'a certainement essayé de le mettre en pratique. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'avec notre volonté, on ne peut pas. Il faut une autre expérience derrière. Philippiens 2, verset 3. L'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bon, vous avouerez que ce n'est pas du tout évident. Oui ou non? Oui ou non? Ce n'est pas du tout, soyons honnêtes. Quand on regarde même certaines personnes, c'est tout à fait évident qu'il y a quand même un décalage. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse, afin que l'œuvre de Dieu puisse se faire, car l'objectif, ce n'est pas notre autosatisfaction, quoi qu'elle y ait, elle y est, et comment? Mais en vérité, vous savez que le but, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Comment considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes? Alors, je crois que le mieux, c'est de comprendre le verset 5 jusqu'au verset 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Oui, il ne s'est pas accroché à son titre de Dieu. Il aurait pu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'était homme. On ne comprend pas. Il était Dieu, mais comme il était dépouillé de sa gloire, il était un homme comme vous et moi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quand on lit un peu celui-ci, tout à l'heure, quand on chantait « Cette croix me sera toujours chère », je disais, les gens du dehors ne peuvent même pas comprendre ce que notre cœur ressent quand on chante « Cette croix me sera toujours chère ». Ça ne veut rien dire. Les mots sont tellement petits à côté de ce que ça représente. J'espère que c'est votre cas. Jésus, comment comprendre l'humilité? Comment demander à quelqu'un d'essayer, avec de la bonne volonté, de considérer l'autre comme étant au-dessus de lui-même? Comment devenir humble en disant « Seigneur, fais-moi ressembler à Ruth. Oui, je vais bosser. Oui, fais-moi ressembler à Anne. Change ma façon de prier malgré l'amertume. » Alors, je pourrais prendre des textes. J'ai pensé à Jonathan, je savais que le temps nous est compté. À Jonathan, quand il a accepté, mais joyeusement, de ne pas être roi, le fils de Saül, il devait être le roi, vous le savez. Mais lui, il était content que ce soit David. Vous voyez, on pourrait parler de l'humilité de Jonathan, on pourrait parler de l'humilité de David, malgré son péché et son gros péché. Comment Dieu l'a béni parce qu'il s'est humilié. J'ai pris l'exemple de deux femmes parce que c'est des témoignages extraordinaires qui nous montrent que quand on se rend humble, Dieu change les circonstances et Dieu change notre façon de prier. Mais on ne peut pas vraiment parler de l'humilité sans parler de Jésus. La façon dont c'est humilié, la façon, je ne sais pas ce que tous les anges ont pensé, lorsqu'ils l'ont vu partir, c'était leur créateur. On ne peut même pas s'imaginer ce qui se passait dans les cieux. Les anges puissants en force, lorsqu'ils ont vu leur créateur venir dans le sein de Marie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il voulait se charger du péché. Ce péché que les gens ont la facilité d'utiliser pour dire s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ces guerres au Moyen-Orient. Il n'y aurait pas si, mais mes frères et sœurs, les gens qui parlent comme ça, bien sûr, sont aveuglés. Et que Dieu, s'il se convertisse, ne tiendra pas compte de cette ignorance. Mais car il ne faut pas regarder ce que les hommes ont fait, il faut regarder ce que Jésus a accompli par rapport à ce que l'homme a fait. Et Jésus, il s'est chargé du péché du monde entier. Et quand il a dit « Me voici, envoie-moi », il savait très bien ce qu'il allait endurer. Nous, on peut dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». On ne sait pas trop ce qu'on va endurer. On sait très bien qu'il y a des tribulations, mais on sait très bien aussi que le Seigneur va nous bénir. Tandis que Jésus, quand il est venu, il savait le choc qu'il allait souffrir toute sa vie. La croix, ce n'était pas les derniers jours de sa vie. La croix, ça a été tout le long de son ministère. Il a été à l'ombre de la croix tout le long de sa vie. Il sait ce qu'il va souffrir si vous avez lu les évangiles et si vous lisez toujours avec un cœur ouvert. Je vous assure que l'humilité s'imprégnera dans notre cœur. Il sait tout ce qu'il va endurer, jusqu'à même la trahison d'un de ses amis, le reniement d'un de ses pasteurs qu'il a formé pendant 3 ans. Il sait bien sûr qu'il doit être fait péché. Il sait exactement que c'est son heure. Il a dit, l'heure des ténèbres est venue. Il le sait ce qu'il va subir. Vous le savez qu'il a été à Gethsémané. Gethsémané, ça veut dire le pressoir à huile. Vous savez, on prend 2 pierres, une supérieure et une inférieure, et on les roule, on la roule, et ça écrase les olives qui font de l'huile. Mais à Gethsémané, ce n'est pas l'huile qui a commencé à couler, c'est son sang. Et lorsqu'on parle de Gethsémané, de suite on pense à ce pressoir à l'huile, on sait que l'esprit du Christ, la vie entière de Jésus-Christ a été pressée par les ténèbres. Parce que les ténèbres, je peux vous dire, vont s'acharner dans l'invisible pour détruire Jésus. Nous, on voit tout ce qui est humain. Nous, on voit tout ce qui est humain. Quand on lit l'Évangile, notre perception, puisqu'on ne connaît pas le royaume de l'invisible, ne nous permet que de voir que ce qui est visible. Mais laissez-moi vous dire que Satan s'est acharné pour que Jésus ne puisse pas aller jusqu'au bout. Et quand il était triste jusqu'à la mort, eh bien, il continuait à prier. Les apôtres étaient tristes aussi. Mais la Bible dit qu'ils étaient endormis de tristesse. Vous voyez, mes frères et sœurs, peut-être que vous êtes tristes, que moi je ne sais plus. Les apôtres étaient endormis de tristesse. Vous voulez le lire avec moi? Parce que je crois que c'est important. C'est important de comprendre ces choses. Dans Luc 22, l'humilité ne va pas nous éloigner de la prière. Jésus, angoissé, triste à la mort, va prier. Luc 22, 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Jésus leur avait dit, mais vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. Il leur a dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin d'être soutenu. Quand les chrétiens prient, on fait avancer l'œuvre de Dieu. Oh, que je ne prie pas, ça ne change rien. Ce n'est pas l'humilité, ça. Quand nous voyons ce qui s'est passé à Gethsémané, je peux vous dire qu'un chrétien qui est sérieux comprend que la prière permet que le combat soit porté, soit soutenu, que les chrétiens soient soutenus. On a prié tout à l'heure quelques minutes pour les chrétiens de la Syrie. Vous croyez que Dieu a entendu? Moi, je le crois. Je le crois, j'en suis convaincu. Et on doit pouvoir, et Dieu pourrait nous faire ce reproche. Il l'a fait avec délicatesse. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire avec une dureté pas possible. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il a besoin, heureusement, que Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. Mais mes frères et sœurs, Dieu pourrait nous dire ce matin, mais vous ne pouvez pas passer une heure en prière de temps en temps pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu se fasse, parce qu'il y a des gens qui s'ouvrent, parce qu'il y a des chrétiens qui s'ouvrent, parce qu'il y a des pasteurs qui s'ouvrent, parce qu'il y a des chrétiens qui se meurent, parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme elle devrait se faire. Ne pouvez-vous pas veiller une heure? Il a commencé à suer des grumeaux de sang. Et pourtant, il était triste et angoissé jusqu'à la mort. Ce n'est pas de la poésie. C'est qu'il a vraiment failli mourir à Gethsémané. Ça ne l'a pas arrêté. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas juste je suis humble, point barre, c'est comme ça. Je suis le super-héros qui descendit du ciel. Non, Jésus n'était pas le Superman. Jésus était un homme comme nous. Et ce n'est pas grâce à des super-pouvoirs qu'il a gagné, il a gagné à cause de son humilité. Il a accepté d'être écrasé. Parce que Gethsémané, c'est ce que ça nous indique. Oui, son sang a commencé à couler à Gethsémané. C'est cette humilité, c'est l'humilité de Jésus qui lui a donné la victoire. Ne n'oublions pas une chose, que le royaume de Dieu n'avancera pas avec des battants et des guerriers sophistiqués. Le royaume de Dieu avancera avec des gens humbles. Que son nom soit béni. La souffrance de la part était à Gethsémané, il est déterminé. Il est peut-être triste jusqu'à la mort, ça ne va pas l'arrêter. Il y a des gens qui sont tristes, est-ce que c'est ça? J'arrête, pourquoi y a-t-il eu tant de fils prodigues? Eh bien parce qu'ils n'ont pas saisi cette grâce de comprendre l'humilité pour persévérer jusqu'au bout. S'il y a tant et tant de fils prodigues, c'est qu'ils n'ont pas passé ce cap d'apprendre qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, il y a un état d'esprit à développer. C'est pour ça que Jésus est notre modèle. Il ne s'est pas arrêté. Ne dites pas, moi, si c'est ça, je ne viens plus à l'église. Non, au contraire. Apprends-moi à faire comme Jésus, à surmonter le mal par le bien. La souffrance ne l'a pas arrêté. D'ailleurs, il a dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais toi, ce que tu veux. Il a été arrêté. C'est extraordinaire de relire continuellement. Moi, je vous assure, je pensais les premiers mois de ma conversion que les évangiles finiraient par me lasser. Oui. Mais plus je lis les évangiles, je vous assure, plus je suis bouleversé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me bouleverse chaque fois. De voir ce grand Dieu manifesté en chair, ce qu'il fait, ce qu'il accepte devant Hérode, devant Pilate. Vous avez vu comment il a été, comment il a été humilié, comment on s'est moqué de lui. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. L'humilité de Jésus ne s'est pas manifestée qu'avant la mort. Le jour de la résurrection, vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire un tour chez Pilate? Vous ne croyez pas qu'il aurait pu faire un crochet chez Hérode et chez le sacrificateur Caïphe pour leur expliquer un petit peu les choses? Vous savez, l'humilité, ça ne pousse pas à régler les comptes. L'humilité, ça nous pousse toujours à faire l'œuvre de Dieu, quoi que ce soit qui se passe. Qu'on y fasse attention. Là, après le procès, on va le frapper, on lui va donner des gifles, on lui va lui bander les yeux, on l'a couvert avec une cape, vous savez, des centeniers. Ah, voici le roi, on lui fait une couronne d'épines. Tout ça, on a l'habitude de le dire. Mais quand même, on va prendre la Sainte-Seine, dans un quart d'heure, ce petit peu de vin nous rappelle ce que le Seigneur des Seigneurs a accepté là. Battu, humilié, frappé, vendu, renié, abandonné de tous les hommes. Lui qui avait dit, venez à moi, vous tous, il va dire quelques jours plus tard, tous vont abandonner. Pourquoi? Mais parce qu'il nous aime. Rendez compte, il a fait une couronne d'épines. Je ne sais pas si vous êtes déjà blessé avec une épine, mais c'est pas une petite épine de rosier, donc je veux dire, c'est rien. Et quand on lui a mis cette couronne d'épines sur la tête, on l'a couvert avec cette cape, on lui a tapé sur la tête. Et on lui a dit, prophétise, David, qui t'a frappé. Je pense au soldat, à l'officier très intelligent qui a fait ça. Il va être mort depuis quelque temps. J'espère qu'il s'est repenti. Vous croyez qu'il peut s'être repenti? Vraiment, je le crois. Quand on voit les actes, on voit qu'une foule de sacrificateurs, une foule, obéissait à la foi. Beaucoup ont réfléchi. J'espère que parmi cette cohorte, beaucoup de soldats ont compris peut-être. Mais ils l'ont fait. On l'aurait fait. Parce que quand on est pris par les autres, on fait n'importe quoi. On n'a pas le courage de prendre position. Vous le savez au travail peut-être. Si Dieu le Christ, prophétise. On l'a frappé sur sa tête, on l'a cloué, il n'a rien dit. Il n'a pas eu pleuré à cet attendu. Il n'a rien dit. Ce matin, je continuais de méditer ces textes et je me faisais un film. Et je pensais, quand il était sur la croix, je pensais aux anges puissants en force. Je pensais à l'ange Gabriel, vous savez, cet ange qui se tient devant Dieu, qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Daniel, qui a parlé à Marie. Il a dit, je me tiens devant Dieu. Cet ange qui doit très bien connaître Jésus-Christ. Vous comprenez, je me tenais devant Dieu, donc il connaît très bien Jésus. Et j'imagine cet ange, car ces anges, on les rencontrera, on les côtoiera, on disputera avec eux, vous comprenez bien. Je l'imaginais, c'est peut-être une bêtise que je vais dire. Mettez-le comme une parenthèse dans la prédication, ça ne vient pas de la Bible, ça vient de moi. Mais je m'imaginais en train de voir ces anges puissant devant le trône, en train de dire à Dieu, mais on ne peut pas faire quelque chose. Vous comprenez ma pensée? Je l'imagine et Gabriel, cet ange quand même grand. Dire à Dieu, franchement, on ne peut pas faire quelque chose. Et Dieu dire, non, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Dieu l'a livré pour vous, pour toi. Toi qui viens pour la première fois, toi qui viens depuis 60 ans, ne redeviens jamais sensible à la croix. Parce que si nous voulons avoir de l'humilité, il nous faut rester toujours sensible devant la croix. Je vous dis, on voit ce qui s'est passé dans le visible. Si vous lisez ce soir la fin des évangiles, vous voyez ce qui s'est passé du côté humain. Et si je vous parle de Gabriel, j'espère qu'il n'en voudra pas d'avoir parlé de lui comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses qui sont passées dans l'invisible. L'enfer entier s'est déchaîné. Je suis sûr que sur la croix, le diable aurait bien aimé que Jésus, quand les hommes disaient « Si tu es le Christ, descends, il a sauvé les autres, et bien qu'il se sauve lui-même, descends !» Le diable a tout fait pour que Jésus se rebelle, pour que Jésus pêche. Car s'il l'avait fait, c'était fini pour la rédemption du monde. Et il ne dit rien. Abandonné, insulté, on lui a craché dessus, les clous, son corps devait être couvert de sang. La Bible dit que son visage était défiguré. Défiguré par la souffrance. Si vous lisez dans le dictionnaire défiguré, ça veut dire qu'on ne peut pas le soutenir le regard. On détourne le regard de quelqu'un qui est défiguré. Défiguré. Son corps maltraité, déchiqueté par ses fameux 39 coups, ses 40 coups moins un, par les lanières et les crochets accrochés à ses lanières les fouets. C'était pas un petit martinet qui lui a fait rougir le dos. Ses os étaient peut-être même à nu. En tous les cas, sa chair et ses muscles, c'est sûr. Il dit rien. Il ne dit rien. Lui qui avait dit quelques heures plus tôt à Pierre, mais tu sais pas, que je peux invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même 72 000 anges. Et je pense qu'il n'y en avait pas que 72 000. Je ne serais pas étonné que tous les anges de la création étaient là dans l'invisible en train de regarder, de soutenir ce qui était en train de se passer. Et que même eux n'ont jamais oublié ça. Mais dans l'invisible, mes frères et sœurs, on n'y pense pas. Et c'est normal que nous ne pensions pas. Moi, je ne pense pas souvent non plus. Mais tout a été fait pour que dans l'esprit et l'âme de Jésus, il abandonne. Et parce qu'il t'aime, il a été jusqu'au bout. Il n'a rien dit. Vous entendez, mes frères et sœurs? Il n'a rien dit. Combien je voudrais vous encourager à ce que nous développions ensemble cette humilité. S'il y a des choses qui doivent être réglées, il faut les régler. Si ton frère a péché, va et reprends-le. D'accord, la discipline dans l'église, vous le savez, je suis à fond. Mais mes frères et sœurs, il y a le côté aussi de la miséricorde. Car si on ne fait pas miséricorde, on n'obtiendra pas miséricorde. Et là, Jésus n'a rien dit. Toute la puissance de l'enfer se déchaîne pour que Jésus souffre et qu'il arrête. Mais Jésus a vaincu les dominations. On le chante des fois. Même il y a des gens joyeux que moi je ne chante pas. Sur la façon dont les puissances de l'enfer ont été anéanties. Je crois que c'est beaucoup plus sérieux que ça. On ne devrait pas chanter ces choses de manière allègre. Non, Jésus n'était pas le super-héros comme on l'entend des fois dans les séminaires de jeunes. On entend ça. Allez sur internet et regardez Rassemblement de Jeunesse et vous allez voir les prédications. Après une prédication comme ça, vous comprendrez un petit peu ma façon de penser. C'était pas un héros. C'était un homme humble. Et c'est à cause de son humilité qu'il a été au calvaire. Il s'est laissé faire. Là, Ésaïe 53, il n'a pas ouvert la bouche. Enlevé par l'angoisse et le châtiment, il n'a pas ouvert la bouche. Maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Devant toute la pression des ténèbres qu'on ne pourra jamais calculer, on sait qu'il s'est chargé du péché du monde, mais on ne sait pas ce qu'il a subi au niveau de l'opposition de toute la puissance de l'enfer. Tout cela nous prouve que vraiment l'amour de Dieu était grand. Mais c'est à cause de son humilité qu'il a pu arriver jusqu'au bout. Pas un mot, si un ou plusieurs. Père, pardonne-leur. Ah, je peux vous dire que les plus proches, ils ont dû tomber les cœurs quand ils ont entendu ça. Quand vous savez que certains crucifiés étaient dans un état de haine et de colère et d'injure, que les soldats leur arrachaient la langue pour qu'ils arrêtent de vociférer les insultes. Si vous lisez l'histoire des crucifixions, vous en verrez de toutes. Et il est certain que quand ils ont entendu ce corps ensanglanté, pantelant, agonisant, s'écrier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », je crois que nous devrions tenir de la graine. Parce que nous avons tous des passés différents, nous avons tous une éducation différente, nous avons tous souffert d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, je le sais. Et je crois que lorsque quelqu'un réagit mal parfois, eh bien, ça doit dépendre de plein de choses. C'est pour ça qu'il voudrait me dire, Seigneur, je pardonne parce que je ne suis pas sûr que moi je sais trop bien ce que je fais déjà, en jugeant. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu n'avancera pas avec une église remplie de guerriers. Le royaume de Dieu avancera avec des chrétiens humbles qui pardonnent. Bon, on n'aura pas à subir tout ce que Jésus a subi. Les chrétiens, si on l'a marché sur le bout du petit orteil, c'est une occasion valable pour quitter l'église. Les chrétiens, pourquoi vous ne venez pas? Parce que vous ne m'avez pas dit bonjour. C'est que je vous tournais le dos, je parlais avec quelqu'un d'autre. Oui, mais je ne sais rien. Bon, ça m'est déjà arrivé. Ça me fait peine. Mais quand vous pensez qu'on en est arrivé là, que Dieu nous aide. Parce que l'humilité nous permettra de tout vaincre, nous aussi. Et si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et si, comme cet après-midi, nous parlerons de la prédication de la croix pour ceux qui périssent parce qu'ils ont besoin d'entendre la prédication de la croix, là c'est une exhortation à l'humilité. Mais je peux vous dire que pour les chrétiens, la prédication de la croix, c'est une puissance. Et je veux croire que cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ne peut que nous communiquer cette humilité qui nous permettra de faire l'œuvre de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Je le répète, quand on l'a crucifié, la première parole, il aurait dû parler, c'était une prière. Il a prié, Père, pardonne-leur. Je peux vous dire qu'il aurait dû prier, Seigneur, Dieu du ciel, détruis-les. Et la seconde après, il n'y avait plus personne à Jérusalem. Il aurait dit ça, il y aurait 30 secondes après, il n'y avait rien sur la terre. Rien. Et c'est vrai ce que je vous dis. Il aurait pu, je pense que le diable aurait voulu ça. Mais sur la croix, la première parole, Père, pardonne-leur. Que la première parole qui sorte de notre cœur chaque fois qu'on est confronté à une forme d'adversité ou d'opposition soit, Seigneur, je pardonne. Il a raison, il a tort, on s'en fiche. Je pardonne. Vous croyez que Jésus avait tort sur la croix? C'est un choix. L'humilité, vous l'avez lu avec moi, je n'y reviens pas sur la lecture, c'est un choix, c'est un état de cœur. Je me rends humble. Je choisis de réagir en fonction de ce que je comprends. Lorsque la révélation de la croix grandit dans mon esprit, je réagis. Je me détermine. Jésus s'est déterminé, c'est écrit. Il s'est rendu, il a résolu de se rendre à Jérusalem à un moment donné. Voilà, il allait au calvaire. C'est un choix. Je parlais des ministères. C'est pas, on n'a pas besoin de tel et tel ministère dans l'église. Non, on a besoin d'hommes humbles, de femmes humbles, de jeunes humbles. On a besoin d'enseigner l'humilité. Ça se travaille, l'humilité. Ça s'apprend, mes frères et sœurs. Revêtez-vous d'humilité. Je crois que la prédication de la croix, réellement, peut nous apprendre l'humilité. Vraiment. Relisez les évangiles. Alors c'est vrai qu'on a tous des combats. Je pensais ce matin, en terminant ma prédication, je pensais à un texte, et on va le lire. Alors, je crois que Dieu m'a donné ce texte qui apparemment n'a pas grand-chose à voir avec la prédication, mais qui, bien sûr, qui se colle quand même. Regardez avec moi. Dans le livre des Actes, chapitre 23, on voit Paul dans une situation étonnante. Ce n'est pas du tout son habitude. Regardez, Actes 23... L'apôtre Paul est devant le Sanhédrin, il est encore accusé, etc., etc. On l'a vu réagir plusieurs fois, ne leur impute pas ce péché. Il est tout le temps dans le pardon. Mais là, il a subi une pression, comme on en subit parfois des conflits. On n'en subit pas des conflits des fois avec un collègue, avec un patron, avec sa famille. Et là, c'est une situation quand même étonnante. Mais j'ai eu à cœur ce verset. On le lit. Acte 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit... Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, Muraille Blanchi. Bon, on est étonné, non? Vous n'êtes pas un peu étonné? Allez, soyez honnêtes. Un peu, on est quand même étonné de voir Paul, quand on voit comment il réagit, Dieu te frappera, Muraille Blanchi. Je ne sais pas l'intonation qu'il a utilisée, mais enfin, on a l'impression que c'est quand même un costaud. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mes frères et sœurs, l'humilité nous poussera non seulement à être changés par le témoignage de Christ, mais ne peut que nous pousser à respecter les gens, respecter les patrons. Moi, quand je vois comment certains chrétiens parlent de leur patron, ne vous attendez pas à être béni. Dieu vous pardonnera, demandez pardon. Mais veillons à ce que cette mentalité de rebelle ne rentre pas dans nos cœurs. On n'a pas à parler mal. Moi, combien de fois j'ai été obligé de demander pardon à des pasteurs pour les avoir critiqués? Combien de fois? Parce que j'avais parlé mal. Et je sais que la pastorale est au-dessus de moi et que j'ai intérêt à faire attention. Et j'ai combien de fois? Mais ne parlez pas mal des autorités. Juste de gauche, de droite, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais priez pour les autorités. Priez pour le président. Priez pour son premier ministre. Priez pour le monsieur Valls, le ministre de l'Intérieur. Croyez-moi qu'il va avoir du travail. Croyez-moi. Croyez-moi, quand la loi pour les homosexuels va être votée, croyez-moi, il va y avoir du changement en France. Croyez-moi. Pas bien. Croyez-moi. Mais ça ne nous autorise pas à parler mal. Or, moi, si je devais rencontrer un ministre, je dirais ce que je pense. Mais je dirais, je prie pour vous. Et j'aurai de l'amour dans son bon cœur pour le salut de son âme. C'est une chose de dire, ça n'est une autre après d'aimer les gens. L'humilité ne peut que nous amener, même si parfois on peut réagir mal, comme Paul qui n'a pas été le dos de la prière, mais quand il a vu que c'était le souverain sacrificateur, il dit, je sais ce que la Bible dit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et veillons à ne pas parler mal des uns des autres, de toute façon. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Les gens s'imaginent que l'œuvre de Dieu va se faire si on veut si on fait. Moi je vous dis, Jésus a fait l'œuvre de Christ parce qu'il s'est rendu humble. Et si nous nous rendons humbles, l'œuvre de Dieu se fera. Et si nous avons commis un impair, comme l'apôtre Paul, eh bien, demandons pardon, humilions-nous devant Dieu. Si la personne est au courant, allons lui demander pardon. Ne parlons pas mal, les enfants, ne parlez pas mal de vos parents. Il y a plein d'enfants ici, les ados qui étaient ici. Ne parlez pas mal de vos parents. Bénissez-les. Ils ont trop corrigé, eh bien remerciez-les. L'humilité, ça ne peut pas nous amener autrement. Je voulais prendre plusieurs exemples. Vous voyez, j'ai parlé de Ruth, ça n'a pas mené à se rebeller. Anne, malgré l'amertume, ne s'est pas rebellée. Quand le pasteur lui a fait comprendre, était partout dans le coup avec son discernement, elle a dit non, je ne suis pas ivre. Je répands mon cœur devant Dieu. Quiconque se rendra humble